Et de mon côté, ben, ça va bien parce que j'ai de la belle visite au téléphone. Marie-Ève Fournier, chroniqueuse à la presse. Bon matin.
Bonjour Eric.
Alors, aujourd'hui en fait, on s'appelle parce que on voulait discuter en fait, ben moi et mon équipe, on voulait jaser de ton dernier article en fait sur la déconsommation en fait. Alors en quelques mots pour nos éditeurs, là, peux-tu définir en fait le phénomène de la déconsommation?
Oui, c'est un phénomène très intéressant qui est un grand mot, mais qui veut dire une chose très simple. Donc c'est juste consommer moins. On peut consommer moins pour toutes sortes de raisons. Hein. On peut trouver que notre maison déborde et que là, on a déjà trop de choses. On peut être surendetté et vouloir améliorer son bilan financier. Nos revenus peuvent diminuer. Donc, la déconsommation peut être, dans le fond, involontaire. Là. On peut déconsommer pour des raisons environnementales parce que la consommation, hein, ça, c'est pas très bon pour la planète. Ça peut être pour notre propre santé. On peut couper la cigarette ou la viande rouge, les boissons gazeuses. On peut décider de laisser tomber les vêtements de piètre qualité parce que c'est une industrie extrêmement polluante. Donc, il y a toutes sortes de raisons de réduire sa consommation, mais tout ça, c'est de la déconsommation.
Ben oui, effectivement, et de la déconsommation, puis c'est un peu dans l'air du temps actuellement. On se découvre avec les dernières années que peut-être on consomme beaucoup, et avec la pandémie en plus, là justement, on a remarqué que quand on allait un peu moins au restaurant, bon, on avait un peu plus d'argent. Hein. Dans votre article, vous mentionnez différentes plateformes. Là, on parlait d'Airbnb, on parlait de maremise.ca, qui permettent de consommer de manière plus responsable. Toutefois, selon vous, c'est quoi le plus grand obstacle en fait à la déconsommation au Québec?
Oui, effectivement, ce qui aide beaucoup la déconsommation, ce sont entre autres les plateformes en ligne. Hein. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de louer, d'échanger des services, des biens, tout ça. Mais pourquoi tout le monde n'en est pas là aujourd'hui? Je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Quand on a toujours l'habitude d'aller à l'hôtel ou d'avoir sa propre voiture, et bien soudainement d'échanger une maison ou d'utiliser un service d'autopartage, c'est un changement d'habitude. Toutes les plateformes-là aussi, on peut voir ça un peu comme une privation de liberté. Hein. L'autopartage, bon, c'est sûr que quand on a notre voiture dans le garage, on se sent plus libre, c'est plus facile de faire des choses de façon spontanée que si on utilise un service d'autopartage. Donc, je pense qu'il y a un peu une question de liberté aussi là-dedans. Et puis, je pense que posséder des choses, ça nous valorise, ou en tout cas, ça valorise certaines personnes. Le fait de posséder, ça les rassure si c'est dans leur maison et ça démontre aussi un certain niveau de vie, un certain confort plutôt que d'emprunter des choses de temps à autre. Là, il y en a qui aiment beaucoup mieux avoir leurs propres affaires à elles dans leur maison.
Ben non, je comprends bien ça. Là, si on prend par exemple, moi, je me prends par exemple, moi, j'utilise que l'autobus pour tous mes déplacements. Mais c'est vrai que des fois, d'avoir une voiture, ce serait plus facile en me disant, ce serait peut-être, c'est moins de prévision d'aller à l'épicerie, par exemple. Puis on peut comprendre ça effectivement. Oui. Mais peut-être aussi.
En même temps, on peut pas blâmer tous ceux qui ont des voitures.
Ben non.
Parce que ça dépend où on habite. Là, dans certains
exact.
Coins, on a juste pas le choix là, d'avoir une voiture, puis parfois même deux. Donc on peut pas. Il y a des réalités différentes aussi. En Amérique du Nord, je dirais qu'il faut qu'on peut pas du jour au lendemain tout le monde se mette à l'autopartage.
Non, effectivement. Et pensez-vous que la pandémie a laissé une marque permanente sur les habitudes de consommation? Est-ce que c'était vrai tous ces changements-là? Alors, je pense que tu t'en rappelles peut-être, mais tu sais, au début de la pandémie, on était comme c'est le début d'une nouvelle ère. Les gens vont être plus près l'un de l'autre. On va mieux consommer. On va plus partager. On va faire notre pain à maison. Est-ce que finalement, c'était juste un phénomène éphémère?
Ben, peut-être pas tant que ça. Évidemment, bon, j'ai pas de boule de cristal.
non, c'est sûr, c'est sûr.
Personne en a. Mais, tu sais, la pandémie, là, je pense qu'on s'enligne vers quelque chose qui va durer 2 ans. Là.
Ouais.
Donc, c'est sûr que ça va laisser plus de traces que si ça avait duré seulement un mois comme on pensait au début. Là. Et c'est drôle parce que je parlais à un ami hier qui me disait, ben, on a le droit d'inviter des amis à souper le samedi, mais on le fait plus.
Mm-hmm.
Je dis, moi non plus. On a comme un peu perdu cette habitude-là. On a le droit, mais les invitations sont moins nombreuses. Donc, déjà, je pense qu'on a changé un peu nos habitudes. On a beaucoup réfléchi à notre consommation quand même parce que on a tous été forcés, hein, on a vécu une grande expérience au Québec, on a tous été forcés de déconsommer pendant 5-6 semaines. Les magasins étaient fermés le dimanche. Les essentiels et les non-essentiels ont été fermés à 2 reprises. Là.
Ouais.
Donc, on s'est habitué un peu à consommer moins. C'est sûr que le jour où on va retourner au bureau, bon, probablement que quand ce sera la fin pour tout le monde du télétravail, là, si ça arrive, ben, c'est sûr qu'on va probablement toujours recommencer à consommer plus de vêtements parce que ça, c'est une catégorie aujourd'hui là qui souffre énormément. Mais la mode a changé déjà. Il y a plein de choses qui ont déjà changé et il y a plein de tendances qui étaient déjà là avant la pandémie, là. L'autopartage existait déjà,
oui.
Uber, les home exchange et les sites pour louer des maisons de Airbnb, c'était déjà des choses qui existaient avant. Les friperies en ligne, il y en avait, là il y en a encore beaucoup plus, mais je pense que l'environnement, peut-être encore plus que la pandémie, va avoir un impact. Parce que les jeunes, surtout, voient les changements climatiques puis vont être affectés pendant longtemps. Et c'est peut-être ça le plus grand moteur de changement qu'on va voir.
Et vous-même, en fait, là, après avoir écrit un article comme ça, est-ce que vous avez adopté également des pratiques pour réduire votre consommation?
Ben moi, je suis une grande économe depuis toujours.
Okay.
Alors, je n'ai jamais surconsommé. Et donc, je dirais que
c'était déjà enclenché le processus.
Pour moi,
ouais.
Ce serait déjà difficile pour moi de réduire parce que pour des soucis surtout économiques, et j'ai jamais beaucoup dépensé et j'ai couvert la consommation. Ça fait presque 20 ans que j'écris sur la consommation et j'ai beaucoup vu les ravages de la surconsommation. Alors, ça, pour moi, ça fait déjà pas mal partie intégrante là, de ma vie, mais je donne pas de leçons à personne, là. Je suis loin d'être parfaite. Et moi aussi, j'ai plein de contradictions comme tout le monde. Là.
Ben oui, comme on dit, c'est une étape à la fois aussi. Hein. T'sais, on ne peut pas virer du jour au lendemain 100% local, 100% plus d'auto, par exemple, tout ça. Il y a un temps d'adaptation. Puis comme on le disait un peu plus tôt, il faut prévoir un peu plus. Je pense que c'est ça, en fait, le gros bâton, on pourrait dire, de la déconsommation, là, c'est de prévoir à l'avance des choses. T'sais, on veut tout un jardin, on veut tout du canage. Il faut le faire, il faut le prévoir à l'avance. Parce que c'est pas au mois de novembre qu'on se dit « Ouais, je devrais peut-être faire un jardin. » Il est déjà trop tard.
Exactement.
Et au-delà des avantages économiques, c'est sûr qu'il y en a. On a touché un petit peu le sujet, mais en fait, est-ce que tu crois que ces individus-là qui décident de réduire leur consommation le font par conscience environnementale? Il y en a sûrement beaucoup plus qu'économique, en fait, actuellement. Là.
Oui, beaucoup de conscience environnementale et beaucoup de temps aussi. Parce que consommer, premièrement, ça prend du temps. Hein? Quand on veut s'acheter quelque chose, ben, il faut le magasiner. Puis après ça, il faut peut-être l'entretenir. Bon, prenons l'exemple d'un chalet. Bon, ben, choisir le chalet. Ensuite, l'entretenir. Là, ça fait 2 maisons à décorer, 2 maisons à... Tout est en double. Hein?
Oui.
Donc, avoir un bateau, c'est la même chose. Ça demande beaucoup de temps. Et puis là, il faut l'assurer. Donc, il faut gérer les assurances, il faut gérer le remisage, il faut le nettoyer. Donc, posséder des choses, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et qu'est-ce que l'humain moderne n'a plus? Du temps.
Mm-hmm.
Et ça, c'est un autre facteur que j'ai trouvé très intéressant là, dans l'étude d'Éric Noël qui a été faite récemment sur la déconsommation, où il disait, ben ça aussi, ça va être un gros moteur de changement. On a plus le temps et la vie, bon, ça va vite et tout ça, on travaille beaucoup, mais aussi, on veut passer plus de temps en famille, du temps de qualité avec nos proches, puis on se rend peut-être compte qu'entretenir là, toutes ces choses-là qu'on possède, notre grande cour, notre grande piscine, notre chalet, notre bateau, tout ça, notre condo en Floride, ça demande beaucoup de temps. Ce serait peut-être plus simple de juste louer.
Oui, effectivement. Effectivement. C'est des bons mots pour terminer cette chronique-là. Cette entrevue-là, pardonnez-moi. Alors, Marie-Ève Fournier, chroniqueuse à la presse. Alors, on a parlé de la déconsommation. En fait, je recommande même les gens d'aller lire votre article, qui est La déconsommation ou l'art d'en avoir plus pour son argent. Je vous conseille ça. Allez lire ça. C'est assez bien éclairant. Puis, il y a beaucoup de solutions. Moi, depuis des années, je crie au effort qu'il doit y avoir des services de location d'outils. Finalement, je découvre qu'il y en a parce que, comme je dis souvent, pour moi qui est locataire, ça sert à rien de m'acheter une perceuse. Si je peux l'emprunter à quelqu'un pour une fois, on n'a pas besoin d'en acheter et puis de la laisser traîner dans son garde-robe.
Vous avez tout à fait raison. Bon, la planète vous remercie.
Ah oui, une perceuse à la fois. Merci beaucoup encore, Mme Fournier, d'avoir pris votre temps ce matin.